Europe 1. Heures sur Europe 1.
Stéphane Bern et Mathieu Noël.
Historiquement vôtre.
Bonjour à tous, quelle joie de vous retrouver pour un nouveau numéro d'Historiquement Vôtre, l'émission qui chaque après-midi vous raconte l'histoire sans se la raconter et avec un grand sourire. Le mien, c'est celui de mon fidèle complice Mathieu Noël. Bonjour Mathieu.
Bonjour Stéphane, bonjour à tous. Et en matière de grand sourire, on ne va pas être déçus aujourd'hui puisqu'on évoque trois personnages de l'histoire célèbres pour avoir redonné vie à un serial killer.
Pardon, un quoi ?
Un serial killer.
Plaît-il ?
Un serial killer, un tueur en série si vous voulez.
Ah, un serial killer. Eh ben, n'est pas David Castello-Lopez qui veut.
Oh, ça va.
Parler l'anglais, c'est parler l'anglais. Ouais. Bon, j'ai compris le sens finalement, Mathieu.
Je vous remercie.
Aujourd'hui, on évoque ces personnages qui ont redonné vie à un tueur en série. À commencer par l'auteur du roman Psychose, qui inspira à son tour Alfred Hitchcock, qui s'appelle Robert Bloch. S'est inspiré lui-même pour l'écrire d'un personnage effrayant, Ed Gein, tueur en série et voleur de cadavres dans les années 40 aux États-Unis, qui se servait des restes humains pour en faire des objets.
Sympa.
Ouais, très
beau hobby.
Puis lui aussi a redonné vie à un autre tueur en série, le comédien Tony Curtis, avant amicalement vôtre. Il a été l'étrangleur de Boston. Et puis enfin, de votre côté, Mathieu, vous nous brosserez le portrait, bon, à 99% vrai, d'un personnage toujours vivant.
Alors non seulement lui est vivant, mais le personnage de serial killer qu'il incarne dans une série Netflix est lui aussi vivant. Je vous raconte le fabuleux destin de Tahar Rahim, qui incarne le terrifiant Charles Sobhraj dans la série Netflix Le Serpent.
Bon, eux aussi sont terrifiants à leur manière.
Pour d'autres raisons.
Mais n'ont jamais tué personne. Enfin,
ah, je crois.
Ce sont nos chroniqueurs, avec nous comme chaque jour. Elle nous entraîne dans l'intimité des grands de ce monde, Clémentine Portier-Kaltenbach. Bonjour Clémentine.
Bonjour à tous.
Bonjour.
Alors aujourd'hui, ça ne va pas rigoler, mais ça va être assez rapide. Moi aussi, je vais vous parler de tueuses en série, qui étaient les tireuses d'élite de l'armée soviétique.
Ah oui.
Eh ouais, les snipeuses.
Eh
ouais, il y en a eu
tout
des platés.
Eh
oui, tout à fait. Vous verrez, la plus connue d'entre elles était un phénomène.
Avec nous également, il est portugais, il est brillant, il est vif et surtout, il remonte aux origines des inventions qui font notre quotidien. Aujourd'hui, une invention qui a changé la vie de beaucoup de Parisiens, David Castello-Lopez.
Oui, et qui ne fait plus leur quotidien puisqu'elle a disparu depuis.
Là,
c'est une histoire d'échec.
C'est
le tapis roulant ultra rapide de la station Montparnasse à Paris, qui allait à 11 km/h au lieu des 3 traditionnels.
Et il y avait beaucoup d'accidents ?
Il y avait pas mal d'accidents, c'est une histoire d'échec, et donc par contre, c'est horrible.
Récemment, je me souviens que David nous a parlé du surimi, on s'est beaucoup moqué de lui, et surtout Olivier Pouls, qui est avec nous aujourd'hui. Bonjour Olivier, vous êtes beaucoup moqué de David.
Oui.
Aujourd'hui, vous nous parlez de quoi exactement, Olivier ?
Je vais vous parler d'un mec que vous ne connaissez visiblement pas.
Que j'ai pas forcément envie de connaître.
Vous avez vraiment tort, parce que c'est probablement la chronique de recettes la moins chère de la saison, puisqu'il y en a partout. Il y a qu'à se baisser pour en ramasser.
Oui, mais justement.
Non, les orties.
Ah oui.
Eh bien, manger des orties, c'est extraordinaire.
Vous nous proposez une quiche aux orties.
Oui.
Ça va quand même très loin.
Eh bien, je peux vous garantir que si je vous la sers, vous serez convaincu. Allez ramasser des orties et mangez-les, c'est extraordinaire.
Enfin, on ramasse.
Ça fait mal quand on les ramasse.
Oui, comment vous les ramassez?
Avec des gants, évidemment.
Avec quelqu'un qui les ramasse pour vous.
Dans la bouche, ça fait pas mal.
Ben, je vous expliquerai pourquoi ça fait plus mal une fois que c'est préparé, évidemment.
Ah, il faut bien les cuire, sinon.
Ah, bah oui, oui. Si vous voulez manger comme ça.
Mauvaise idée.
Très mauvaise idée.
Et hop, direct au lit. Enfin, à quelques jours de la fin de la saison, c'est la dernière ligne droite dans le quiz. Le sprint final durant lequel ses fans l'espèrent. Stéphane va tout donner pour coiffer sur le fil Clémentine Portier-Kaltenbach. À la clé, un prix magnifique qui vous sera remis par David.
Un manga porno gay japonais.
Aux alentours de 5h-10, nous jouerons pour l'amour de l'histoire et des mangas porno japonais gays à faire to be alive. Mais d'abord, découvrons notre premier personnage de l'histoire qui a redonné vie à un tueur en série, celui de Psychose. Stéphane Bern nous raconte Robert Bloch.
Europe 1. 16h-18h, historiquement vôtre. Stéphane Bern et Mathieu Noël. Le récit.
C'est l'un des cris les plus célèbres de l'histoire du cinéma. Psychose. Ou l'histoire d'une dame qui a peur sous la douche. Ou plutôt celle d'un tueur en série qui a existé en vrai, qui a inspiré Alfred Hitchcock, mais avant lui, un écrivain phare aux États-Unis. Stéphane Bern nous raconte celui qui a redonné vie au tueur Ed Gein, Robert Bloch.
Je ne sais pas à quoi vous occupiez vos journées quand vous étiez petit, Mathieu, mais Robert Bloch, lui, passait son temps à lire. Il faut dire qu'il n'avait peut-être pas grand-chose d'autre à faire. Lorsqu'on est à Chicago en 1917, dans une famille classique de la classe moyenne, l'aventure n'est pas au coin de la rue. Alors, l'aventure, Robert va la chercher dans les livres et les Pulp Fictions. Ces magazines à trois sous comme Wild Tales, Étranges Histoires, en français, avec des couvertures toujours un peu criardes et tape à l'œil, vous savez, et aussi diablement attirantes quand on est un jeune garçon fasciné par les récits d'horreur et de science-fiction. C'est dans des magazines comme celui-ci qu'on retrouve quelques grands noms comme Robert Howard, l'auteur de Conan le Barbare, ou Howard Phillips Lovecraft, le créateur du mythe de Cthulhu. Et à cette époque bénie, lorsqu'on écrivait aux auteurs du magazine, ils répondaient. C'est comme cela que Robert Bloch entre en littérature en échangeant avec Lovecraft, à qui il envoie ses premiers textes. Avec un parrain pareil, on finit rarement par écrire des histoires pour la collection Harlequin. Robert Bloch poursuit dans cette veine et publie une série de livres qui vont de l'horreur au fantastique en passant par le thriller. Déjà, le thème des serial killers l'inspire, parce qu'il écrit plusieurs textes autour de Jack l'Éventreur. Mais ce n'est pas grâce aux célèbres tueurs en série anglais que Robert Bloch lance véritablement sa carrière. En 1957, le romancier partage son temps entre l'écriture et son travail dans une agence de publicité quand il entend parler d'une histoire criminelle particulièrement horrible. La police du Wisconsin vient en effet d'arrêter un étrange personnage dans la ville de La Crosse, dans le Wisconsin donc, à quelques kilomètres de chez lui. Et si l'affaire fait des gros titres, c'est par le caractère plus que bizarre du suspect. Ed Gein, âgé de 51 ans, l'homme a été arrêté au lendemain de la disparition d'une commerçante de la ville, Bernice Warden. En cognant à la porte de la grande maison dans laquelle vit Ed Gein, isolé à l'écart de la route, les enquêteurs plongent en enfer. Pièce après pièce, ils tombent sur une série de débris humains éparpillés au travers d'un fatras inimaginable. Certains sont dans un état de putréfaction avancée, d'autres sont conservés dans des jarres et des bocaux. On retrouve des abat-jours, des rideaux, des gants et même des draps, fabriqués avec de la peau humaine soigneusement tannée. On trouve aussi des crânes au sommet scié qui lui servent de bol ou de vide-poche. On tombe nez à nez sur une guirlande composée d'une dizaine de nez de femmes. Mais le pire est à venir. Dans un hangar, gît là le corps déjà dépecé de la pauvre Bernice Warden. Et dans les tiroirs et les placards de sa chambre, le clou du spectacle, si j'ose dire, des collants et un corset fait de peau humaine et plusieurs masques qui ne sont en fait que les visages soigneusement découpés de plusieurs femmes. Petit à petit, les policiers reconstituent le parcours d'Ed Gein et découvrent que son père est mort quand il était jeune, mais surtout l'étrange relation qu'il avait avec sa mère, une commerçante qui avait bien réussi, mais qui était aussi très dure et dominatrice. Ce qui n'a jamais empêché Ed Gein de lui vouer une profonde admiration, une adoration presque religieuse. Et c'est lorsque sa mère adorée est morte que quelque chose a disjoncté dans le cerveau déjà fragile d'Ed Gein. Pendant des années, il a fait son marché dans les cimetières du comté, creusant les tombes les plus récentes pour arracher le corps de plusieurs femmes de leur cercueil avant de les ramener chez lui pour les écorcher, les désosser et transformer leurs dépouilles en objets et vêtements. En tout, les enquêteurs identifient une quinzaine de cadavres différents, dont au moins deux sont des femmes assassinées par Ed Gein. Il n'y aura jamais de véritable condamnation. Après trois procès, Gein est considéré comme dément par les psychiatres et par les juges, puis placé dans un hôpital de haute sécurité dont il ne sortira jamais jusqu'à sa mort en 1984. L'imagination de Robert Bloch, elle, n'attend pas cet épilogue pour se mettre en branle. L'affaire le fascine parce qu'elle mélange ses deux passions, les affaires criminelles d'une part et l'horreur absolue d'autre part. La maison de Ed Gein, un lieu un peu à l'écart dans les bois, est un lieu qui semble fait pour donner vie aux horreurs les plus folles imaginées par son mentor, l'écrivain H.P. Lovecraft. Robert Bloch se pose alors une question toute simple. Comment en vient-on à fabriquer des vêtements et des masques avec la peau de ses victimes ? L'écrivain se lance dans un roman qui va le rendre célèbre, Psychose. Sous sa plume, Ed Gein devient Norman Bates, un homme obèse et alcoolique qui tient un motel et qui semble vivre sous l'emprise de sa mère. Un jour, sa route croise celle de Mary, une belle jeune femme qui vient de voler une grosse somme d'argent à son patron et qui prend une chambre dans le motel de Norman Bates, malheureusement pour elle. Le roman suit ensuite le parcours de la sœur de Mary, Lila, bien décidée à retrouver sa sœur disparue. Publié en 1959, Psychose fait un carton et lance définitivement la carrière de Robert Bloch, qui va devenir l'un des auteurs d'épouvante et de science-fiction les plus importants des années 60. Mais la carrière artistique de Norman Bates est loin d'être terminée. Au contraire, grâce à un certain Alfred Hitchcock, le double littéraire d'Ed Gein va entrer au panthéon du cinéma mondial. En 1959, Hitchcock termine La mort aux trousses et n'a aucun projet précis en tête. En attendant un avion, il achète alors le livre de Robert Bloch qui caracole en tête des ventes. En quelques heures de vol, Alfred Hitchcock a déjà décidé d'adapter cette histoire. Le problème, c'est qu'il est bien le seul à l'imaginer. La Paramount, qui produit ses films, ne croit pas à ce projet qu'elle juge beaucoup trop macabre pour être adapté au cinéma. Mais Hitchcock en achète les droits pour quelques 9 000 $. Pour produire Psychose, le réalisateur va devoir ruser. Pour réduire le budget, il décide de tourner en noir et blanc et d'utiliser les ressources de son émission de télévision Alfred Hitchcock présente, plutôt que de passer par les studios d'Hollywood. Il offre à un acteur assez peu connu le rôle principal de Norman Bates, Anthony Perkins, qui va donner une version du tueur beaucoup plus jeune et beaucoup plus séduisante que dans le livre, avec sa tête de gendre idéal. Enfin, il engage une seule véritable star pour jouer le rôle de la jeune voleuse en cavale et encore plutôt une étoile montante, Janet Leigh, qui joue Mary, rebaptisée Marion. Mais ce qui intéresse vraiment Hitchcock dans l'histoire de Robert Bloch, ce n'est pas tellement la personnalité ou le parcours de Ed Gein, alias Norman Bates. Lui est séduit par l'histoire qui lui offre une foule de fausses pistes, qui sont autant de possibilités de tromper le spectateur, persuadé qu'on l'embarque dans une histoire criminelle classique avec cette petite voleuse en fuite qui s'arrête dans un motel. Le début du film est d'ailleurs centré sur Marion, pas sur Norman Bates. Ce n'est qu'au moment de la fameuse scène de la douche que le spectateur comprend qu'il s'est fait avoir et qu'on l'emmène bien plus loin qu'un policier classique. Cette douche, d'ailleurs, est l'une des scènes les plus célèbres du cinéma. Alors que Hitchcock est un spécialiste des plans longs, il aligne 70 plans différents en 45 secondes à peine. L'effet est d'autant plus sidérant que Hitchcock casse un contrat implicite. Quand on voit une star à l'écran, on ne s'attend pas à ce qu'elle disparaisse en plein milieu de l'intrigue. Contrairement au pronostic de la Paramount, à sa sortie un an après la parution du livre de Robert Bloch en 1960, Psychose fait un carton pour un film à petit budget. Il a coûté 800 000 $ et en a déjà rapporté 15 millions 6 ans plus tard. Et le véritable Ed Gein, lui, reste associé pour l'éternité à Norman Bates, son double de papier de pellicule après que Robert Bloch ait choisi avant Hitchcock de lui redonner vie. Robert Bloch poursuit d'ailleurs comme le cinéaste star sa carrière à Hollywood en travaillant désormais et pour les 30 prochaines années pour le cinéma et la télé pour qui il écrit des scénarios. Même s'il n'a jamais tout à fait rompu avec le roman, il a même renoué avec l'horreur lovecraftienne de ses débuts dans Strange Eons, Retour à Arkham en français, paru en 1979. Un livre rempli de références à l'auteur qui lui a donné envie d'écrire ses propres livres. Robert Bloch refermera en 1994 le livre de sa propre vie.
Europe 1, historiquement vôtre.
Et pour continuer à parler de Robert Bloch, nous sommes Stéphane avec le journaliste Alexandre Piltic. Bonjour Alexandre.
Bonjour.
Bonjour Alexandre Piltic, vous êtes journaliste pour la revue trimestrielle consacrée à l'actualité des classiques du cinéma, revues et corrigées, dont le nouveau numéro Hollywood Breakdown vient de paraître. On connaît tous le chef-d'œuvre d'Hitchcock, on connaît moins le roman de Robert Bloch. C'est souvent comme ça que ça se passe hein, au cinéma, qu'on le déplore ou pas. Vous êtes allé à la source en tant que fan d'Hitchcock ?
Bah oui, forcément, quand on s'intéresse à Hitchcock, on est amené à croiser la route de Robert Bloch. Et pas qu'une fois, en fait, parce que donc il est à l'origine de Psychose, mais il a vu plusieurs aussi de ses nouvelles adaptées dans la série que Hitchcock chapeautait, qui s'appelait Alfred Hitchcock Presents. Et il y avait plusieurs de ces nouvelles qui avaient été adaptées, qui étaient à chaque fois des nouvelles à twist avec des rebondissements et un retournement de situation finale qui était très, choc, qui choquait le lecteur et que Hitchcock adorait. Donc oui, Bloch, on le connaît quand on est hitchcockien.
En tout cas, de façon assez symétrique, on va dire, il y a eu un avant et un après, que ce soit pour Hitchcock ou pour Robert Bloch. Redonner vie à un tueur en série, ça a changé la leur de vie.
Exactement. Bah, en fait, je crois qu'il faut vraiment insister sur le fait que Psychose, ça a été vraiment ce qu'on appellerait aujourd'hui un film phénomène. Quoi. C'était vraiment le plus gros succès d'Hitchcock. Le film a coûté 800 000 dollars à produire, ce qui était assez peu, et on a rapporté 10 ou 15 millions. Et en fait, le film d'Hitchcock s'est construit comme étant un film sans star, parce qu'Anthony Perkins, à l'époque, n'était pas très très connu, pas plus que Janet Leigh ou Vera Miles. Et en fait, Hitchcock a eu le génie de faire en sorte que la star, ce soit le film. Et donc, en fait, il y a un mythe qui s'est créé autour de films presque en direct, et c'est ça qui a vraiment fait que le film est resté collé vraiment à tous ceux qui y ont été accolés de près ou de loin, et ça a même pu être un fardeau. Je pense que Anthony Perkins, par exemple, n'a jamais réussi à se sortir de son rôle de Norman Bates.
Oui, mais en même temps, au cœur du film comme du roman, il y a cette fascination pour ce tueur en série, Ed Gein. Qu'est-ce qui en fait un parfait personnage de thriller ? Il cumule pas mal de caractéristiques, lesquelles, selon vous ?
Je crois que ce qui fascine les gens dans les tueurs en série de manière générale, c'est le fait que c'est des sortes de mystères insolubles et scandaleux, quoi. Sur lesquels, en fait, on peut projeter à peu près tous les fantasmes et toutes les histoires qu'on veut. Je crois que dans le cas particulier d'Ed Gein, donc qui a inspiré à la fois le roman de Bloch et le film d'Hitchcock, ce qui a fasciné, c'était vraiment, je pense, la dualité qui était au cœur de son personnage. C'était à la fois une sorte de bête sanguinaire et en même temps un enfant qui était dans le giron de sa mère. Et c'est ça qui a vraiment inspiré non seulement Hitchcock, mais après Massacre à la tronçonneuse, par exemple, ou même Le silence des agneaux. Donc c'était vraiment un personnage très particulier, je pense.
Et surtout, c'était absolument monstrueux, parce que je crois que c'est assez inédit, aller déterrer des cadavres, tuer d'autres femmes.
La fascination du pire.
Oui, c'est parce que utiliser les os, la peau humaine, enfin, il y a peu de cas comme ça.
Il cumulait beaucoup de tares, on va dire, oui. C'était vraiment... Mais ce qui est vraiment intéressant, c'est le fait, je trouve, que les cinéastes en aient fait vraiment des personnages très très différents, parce que Norman Bates, c'est pas le même personnage que Massacre à la tronçonneuse, qui n'est pas le même que Anthony Hopkins dans Le silence des agneaux. Donc il y a vraiment, je trouve, on a réussi à en faire des choses entièrement différentes, mais qui tournent toujours autour de la dualité, comme ça, entre une sorte d'enfant oedipien et de monstre sanguinaire, quoi.
Alors, Robert Bloch, avant Hitchcock, a donc redonné vie à Ed Gein, on en parlait. C'est vraiment pas un meurtrier banal, il a un mode opératoire bien à lui. Ce combo savoureux, si j'ose dire, de meurtre, de nécrophilie et de dépeçage de cadavres, est-ce que c'est ça qui les a fascinés, l'auteur et le cinéaste ? C'est ce niveau d'horreur qui est, même chez les serial killers, ça va rarement aussi loin quand même.
Alors, je pense que c'est ça qui les a fascinés, forcément, mais il y a aussi une autre chose qui les a fascinés. Je pense que c'était un personnage qui leur permettait d'explorer une terreur nouvelle, en fait. Parce que jusque dans les années 60, dans la littérature et même au cinéma, en fait, le monstre, c'était Frankenstein, c'était Dracula, c'était une horreur qui se désignait elle-même en tant qu'horreur. À partir de Psychose, en fait, on assiste vraiment à une terreur du quotidien. C'est quelque chose qui surgit vraiment des profondeurs, dans une chambre de motel, quoi. C'est vraiment une terreur domestique d'un genre nouveau. Et je pense que c'est ça qui les a vraiment fascinés, qui a à la fois fasciné Bloch et Hitchcock.
Hitchcock et Robert Bloch n'ont pas eu du tout la même approche de ce tueur. Au fond, qu'est-ce qui fait la singularité d'Anthony Perkins qu'il incarne à l'écran ? J'ai rappelé qu'il n'avait pas la tête de l'emploi et notamment, il était plutôt, il en a fait un jeune premier en fait. Il était plutôt plus séduisant que Ed Gein.
Oui, exactement. En fait, là, c'est une grande différence entre le roman et le film d'Hitchcock, c'est que Bloch en avait fait un personnage bedonnant, chauve, qui avait la quarantaine. Et Hitchcock, c'est là, je pense, son coup de génie, a compris très vite que c'était beaucoup plus efficace et beaucoup plus effrayant de prendre un jeune premier comme Anthony Perkins avec une gueule d'enfant presque. Et je pense que, en fait, on peut expliquer ça de deux manières. Parce qu'en fait, Hitchcock, quand il a fait Psychose, voulait draguer en fait un public jeune qui commençait à voir des films de terreur dans les salles, qui allait voir les films de William Castle ou les films anglais de la Hammer. Donc il s'est dit que vraiment le fait de prendre un acteur jeune, ça allait aider à draguer tout un public jeune qui allait se ruer dans les salles, et c'est exactement ce qui s'est passé. La deuxième chose, c'est ce que je vous disais à l'instant, c'est que le fait de rendre Perkins monstrueux, c'est encore plus terrifiant que de rendre quelqu'un qui a entre guillemets la gueule de l'emploi, quoi.
Et si je peux me permettre, j'ai tapé Ed Gein sur Google Images pour voir un peu à quoi ressemblait le vrai meurtrier. Il n'était pas bedonnant spécialement, il était plutôt limite un peu, il est un peu cabossé par la vie, mais plutôt beau gosse presque. Donc c'est presque un retour aux origines d'Hitchcock de prendre quelqu'un qui peut être séduisant.
Ouais. Presque, oui, parce que c'est vrai qu'il avait presque une tête d'acteur. C'est très surprenant. Donc il y a aussi de ça, oui.
Alors, on l'a évoqué, ce qui intéresse Hitchcock, c'est de dérouter, de tromper son spectateur. Quelle ruse il met en place avec ce film ? On a mentionné la façon dont il focalise d'abord sur le personnage de Marion, la dame de la douche, hein, pour les non-initiés, et ensuite ça bascule vers autre chose.
Bien sûr, en fait, là, c'est Truffaut qui reprochait à Bloch, dans son livre d'entretien avec Hitchcock, de tricher en fait avec le lecteur. Il disait qu'il y avait des scènes entières, par exemple, où Bloch décrivait en détail des dialogues entre Norman Bates et sa mère. Mm-hmm. Le problème, c'est qu'au cinéma, je ne sais pas jusqu'où on peut dévoiler l'intrigue, mais au cinéma, on ne peut pas faire ça. Donc Hitchcock a dû trouver plein de ruses de mise en scène, en fait, qui lui permettaient de montrer, tout en cachant l'essentiel, mais sans laisser suggérer au spectateur que la caméra est en train de lui dissimuler quelque chose. Donc c'est une sorte de coup de force qu'il a réussi à faire. Et voilà, donc il a dû inventer plein de trucs. Si on prend la scène de la douche, par exemple, qui est très très emblématique, Hitchcock devait suggérer que c'était Mrs. Bates qui était en train d'assassiner Marion Crane dans la douche, mais devait pas montrer son visage. Il y avait un code de censure qui était encore en place, qui était très très contraignant. Il devait pas montrer, par exemple, le couteau qui pénétrait la chair de Marion Crane. Donc il a dû inventer tout un subterfuge, mais ça c'est toute la grande histoire hollywoodienne de montrer sans montrer, qui permettait avec la musique de Bernard Herrmann, avec un montage très cut, avec les notes très stridentes au violon, nous laisser suggérer en fait qu'on voyait le couteau rentrer dans la poche, alors que non, on voit jamais le couteau qui rentre. Donc voilà.
L'une des grandes révolutions de Psychose, c'est de tuer une héroïne en plein milieu du film. Peut-être parce que, d'abord, le film n'a pas coûté trop cher, il avait plus les moyens de la payer la moitié du tournage. Mais il y a d'autres révolutions portées par le film. Il y a une audace formelle aussi.
Exactement. En fait, on peut vraiment dire que Hitchcock, le fait d'assassiner son héroïne au milieu du film, au bout de 45 minutes, c'est vraiment un gage de modernité absolue, quoi, parce que c'est vraiment là il trahit vraiment un des principes de base de la fiction au cinéma, qui est l'identification du spectateur en fait à l'héroïne et à l'actrice qui est à l'écran. Lui, il détruit ça en plein milieu du film, ce qui est vraiment presque du jamais vu, si ce n'est que exactement à la même époque, la même année, Antonioni fait ça aussi dans un cinéma beaucoup plus intellectuel, dans un film qui s'appelle L'Aventura, où il fait disparaître aussi une actrice en plein milieu du film. Et ça, c'est vraiment sidérant de se dire que Hitchcock et Antonioni trouvent vraiment la modernité en même temps des deux côtés de l'Atlantique dans des cinémas qui sont radicalement différents. Et tout porte à croire qu'en plus Hitchcock savait qu'il prenait des risques en tournant Psychose, parce que le budget donc était assez limité. Il a tourné en noir et blanc alors qu'à l'époque on tournait déjà en couleur. Il a tourné avec son équipe de télévision. Et en fait, il doutait pendant tout le tournage. Il doutait jusqu'à la projection test que le studio avait organisée, dans laquelle Robert Bloch a vu le film, en fait, et il était un peu décontenancé, mais très, très surpris. Et il a dit à Hitchcock, après la projection, ce sera ou votre plus gros succès, ou votre plus gros four. Et ça a été son plus gros succès.
Le plus gros succès. Merci beaucoup, Alexandre Piltitch, et pour tout savoir sur le pétage de plomb qu'a suscité Psychose dans le cinéma hollywoodien des années 59 à 69, je renvoie nos auditeurs vers le nouveau numéro de cette passionnante revue, revue et corrigée, en vente dans tous les kiosques. Merci à vous.
Merci à vous.
Ici Europe 1. 16h-18h sur Europe 1. Stéphane Bern et Mathieu Noël. Historiquement vôtre.
Tous les jours des 16h, Historiquement vôtre vous raconte l'histoire sans se la raconter elle. Elle nous raconte des histoires en visant toujours juste. C'est Clémentine Portier-Kaltenbach. Aujourd'hui, Clémentine, vous nous racontez une femme qui visa encore mieux que vous. La plus grande sniper de l'armée soviétique, son surnom, Lady Death.
Lady Death, c'est comme ça que l'a surnommé la presse américaine. Vous savez qu'en Union soviétique, pendant la Seconde Guerre mondiale, en vertu du principe révolutionnaire d'égalité des sexes, l'URSS est le seul pays qui envoie des femmes au combat par régiment entier. On a eu l'occasion d'en parler, notamment avec les femmes pilotes, les sorcières de la nuit. Et au début de la guerre, les femmes sont à peu près 500 000. On estime qu'à la fin de la guerre, elles seront près d'1 million sous les drapeaux. Ben oui, et Ce que ce qu'un homme peut faire, une femme peut le faire aussi, comme le disait Olympe de Gouges sous la Révolution française. Et sur toutes ces femmes, c'est un million de femmes sous les drapeaux, il y avait 2000 tireuses d'élite. Et toutes ces femmes vont passer par l'école principale de préparation des femmes tireurs d'élite. Ça, c'est vraiment même l'appellation de l'école est typiquement soviétique. C'est à Podolsk, à 40 km de Moscou. Et certaines d'entre elles vont rentrer dans l'histoire. Par exemple, Maria Morozova, kolkhozienne de 18 ans, incorporée à l'armée rouge, dans un uniforme beaucoup trop grand pour elle. Avec le temps et l'expérience, elle devient un soldat hyper endurci, capable de rester 12 heures couché dans la neige. Les qualités d'un bon sniper, c'est l'endurance, la discrétion, le sang-froid, évidemment la patience. Donc elle avait toutes ces qualités, Maria Morozova. Il y avait aussi Sacha Shliavova. Elle, elle est tuée à cause de l'écharpe rouge fétiche qu'elle portait tout le temps.
Oui, mais ça, c'est pas malin.
Bah, c'était
sniper.
Pas très malin, ah oui. Bah, mais elle l'a quitté jamais, mais justement par défi autant que par coquetterie. Et puis une autre encore a raconté qu'elle avait pleuré quand elle avait tué son premier Allemand. Elle avait 21 ans et au cours des mois de guerre, ses cheveux ont blanchi sous l'effet de la peur, sous l'effet du stress, telle Marie-Antoinette rentrant de la fuite à Varennes. Alors on a observé que les femmes avaient de meilleurs résultats que leurs homologues masculins. Oui, parce qu'elles
visaient juste,
elles étaient plus inventives dans l'art du camouflage, elles supportaient mieux que les hommes le stress et le froid. Donc quels sont les objectifs d'un bon sniper, d'une bonne snipeuse dans les cibles adverses? Naturellement, c'est celles dites qui sont dites sensibles, bien sûr les officiers, ça va de soi, les transmetteurs, les mitrailleurs et bien sûr les snipers adverses. Alors en fait, est-ce que vous savez ce que ça veut dire snipers, les garçons là? Comment on le traduit? On dit
tireur
embusqué. Mais en fait, le mot français le plus près, ça serait canardé. Ou plus exactement, bécassiné. Et bécassiné, c'est un mot qui n'existe pas dans la langue française, parce que le mot snipe, ça désigne la bécassine.
Ah, d'accord.
Un petit oiseau qui est réputé pour être très difficile à chasser. Donc vous le saurez désormais, un sniper, c'est un bécassineur, mot qui n'existe pas chez nous. Alors la plus grande de toutes les tireuses d'élite russe, plus exactement, ce fut Lyudmila Pavlichenko, une Ukrainienne née le 12 juillet 1916. Elle était ouvrière dans une usine d'armement à Kiev et elle a commencé très très jeune à s'entraîner au tir. Et donc, c'est elle que les Américains surnommaient Madame la Mort. Et elle a été une des toutes premières femmes à se présenter au recrutement. Vous vous souvenez qu'on avait parlé aussi ici d'une femme dans le quiz qui avait acheté un char d'assaut parce que son mari avait été... Bon, alors elle, Ludmila, elle est dans les premières à se présenter. Et en 8 mois de combats exténuants à Odessa et à Sébastopol, elle inscrit 309 nazis à son tableau de chasse, dont 36 tireurs d'élite. Donc voilà une femme qui a tué plus de 300 hommes, comme ça, allongée dans la neige des heures durant. Elle n'a pas 25 ans, mais elle est considérée comme la tireuse la plus dangereuse de l'armée rouge. Et à un moment, il va y avoir une rupture dans sa carrière parce qu'à l'hiver 41, son amant, le lieutenant Leonid Koutchenko, tombe sous les balles d'un sniper. Et à partir de ce moment-là, Lyudmila a les mains qui sont prises de tremblements qu'elle n'arrive pas à dominer. Et finalement, en juin 42, elle est touchée par un tir de mortier, évacuée du front. Moins d'ailleurs en raison de sa blessure que pour sa notoriété, qui lui vaut d'être envoyé aux États-Unis avec une délégation d'étudiants soviétiques. Donc en septembre 42, elle est accueillie par Franklin Roosevelt en personne et Eleanor Roosevelt qui lui organise une tournée dans le pays. Alors on va lui offrir des fleurs, naturellement, mais sans doute, surtout, on est aux États-Unis, on lui offre un Colt. Elle est très énervée, Lyudmila, parce qu'elle vient quand même de vivre un truc incroyable, hein, d'une dureté majeure, et on lui pose des questions complètement débiles. Est-ce qu'elle se maquille pour combattre? Quelle est sa couleur préférée de sous-vêtements? Si, vous imaginez comme c'est vraiment, ça compte pour Lyudmila. Donc elle finit par recadrer vertement ses interlocuteurs. Elle leur dit, écoutez, vous êtes assez bien gentil d'être entré en guerre contre le Japon, mais il faut ouvrir un second front en Europe. Il faut entrer en guerre du côté des alliés, venir nous aider. Ne vous cachez pas dans mon dos, c'est à peu près ce qu'elle leur explique. Cette fois, au Canada, on lui offre une Winchester. C'est quand même plus adapté à sa vie quotidienne. Et quand elle rentre en URSS, divorce, eh bien, elle devient héros de l'Union soviétique. Sachez que moins d'une centaine de femmes ont été faites héros de l'Union soviétique et seulement 6 snipers, dont Lyudmila. À ce moment-là, elle va se consacrer jusqu'à la fin de la guerre à la formation des tireurs d'élite et elle va faire, figurez-vous, des études d'histoire. Donc, Lyudmila, c'est la snipeuse historienne. Elle a travaillé un temps au QG de la marine russe. Elle s'est occupée beaucoup des anciens vétérans de guerre et elle est morte un peu prématurément, la malheureuse, d'un arrêt cardiaque le 10 octobre 1974 à Moscou. Lyudmila Pavlichenko, l'ancienne ouvrière ukrainienne, rentre alors dans l'histoire, non seulement comme la plus douée des tireuses d'élite de l'armée rouge, mais aussi comme la première citoyenne soviétique à avoir été reçue à la Maison Blanche par un président américain.
Bravo. Hein, merci beaucoup Clémentine.
Tueuse en série.
Là aussi, vous restez avec nous, évidemment, Clémentine, il va falloir viser juste puisque le quiz arrive. Attention, mes petits snipers.
16h, 18h sur Europe 1, Stéphane Bern et Mathieu Noël. Historiquement vôtre.
C'est à la fois une des séquences les plus attendues et les plus débattues de notre émission, pièce maîtresse de l'émission pour ses partisans. Le quiz serait pour ses détracteurs cousu de fil blanc, voire truqué. Dans un souci de transparence, dont il était temps qu'il se manifeste à 3 jours de la quille, je vous propose d'écouter en amont de l'épreuve un extrait d'un quiz récent qui vous en démontrera tout le sérieux. Que peut-on trouver sur le drapeau du pays que l'on ne trouve sur aucun autre drapeau au monde? Un fusil d'assaut? Une faucille, mais pas de marteau. Une girafe à 3 pattes.
Une faucille. Girafe.
Le fusil.
Maintenant que nous savons la rigueur qui préside à ce quiz, jouons sereinement à Burn to be Alive. Première question, Stéphane. Elle nous emmène aux États-Unis. Vous aimeriez, je suis sûr, interviewer Joe Biden.
Oui, beaucoup.
Qu'est-ce que vous lui poserez comme première question? Vous avez déjà réfléchi à ça?
Je prendrai son pouls, je vérifierai déjà que... parce qu'on a tellement dit que...
Vous demanderez un bilan de santé.
Ça tourne au ralenti l'intérieur.
Ça tourne au ralenti l'intérieur. On parle du président des États-Unis quand même, Stéphane.
Oui, mais...
Voilà.
On n'est pas américain.
Oui, c'est vrai, on s'en fout. Voilà en tout cas la question que je vous pose sur ce président qui a marqué l'histoire en devenant, vous l'avez souligné à votre manière, le plus âgé à occuper la fonction de président. Son deuxième prénom est Hyacinthe, comme la fleur. Vrai ou faux?
Je me demande si c'est pas vrai. Il a des origines françaises, en tout cas, par sa grand-mère française et huguenote. Il a eu un drôle de nom.
Ça me dit rien, mais bon, en même temps, ça n'aurait pas de sens. Vous n'auriez pas dit Jacinthe pour...
Il peut avoir un vieux prénom français comme Hyacinthe Rigaud. Il a des origines françaises, donc c'est crédible en tout cas.
Oui, j'aime beaucoup Hyacinthe Rigaud. Très belle exposition à Versailles. Alors on va dire oui.
Vous avez perdu.
C'est faux, Stéphane. Et en plus, on l'a beaucoup entendu, ce nom. Parce que c'est pas plus viril que Hyacinthe. Son deuxième prénom à Joe Biden, c'est Robinette. Biden s'appelle en fait Joseph Robinette.
C'était le nom de sa grand-mère.
Junior, origine
française.
Française.
Ah, c'est ça.
Robinette. Ah. Question numéro 2 pour vous, Clémentine.
C'était un piège que vous m'avez tendu.
Je vous tends de plus en plus de pièges en cette fin de saison. Petite question, Joe Biden, pour vous aussi, Clémentine, car je suis un arbitre sévère mais équitable. Joe, durant sa jeunesse, était bègue. Il a voulu devenir maître nageur. Aucun lien. Aujourd'hui, la piscine où Joe Biden a été maître nageur est la piscine Roosevelt. Vrai ou faux? Là, vraiment, je vous demande d'être pointu historiquement.
La piscine où Joe Biden...
Écoutez, Joe Biden, il est
né...
C'est vrai qu'il doit y avoir un paquet.
Bah, pourquoi pas? Enfin, elle pourrait porter le nom de n'importe quel président américain. Elle pourrait s'appeler Kennedy ou
non, mais pas Nixon.
Ou Lincoln, mais pas Nixon.
Ils ont débaptisé ça.
Jimmy Carter, la piscine Gerald Ford, la piscine...
Non, Gerald Ford, c'est un centre
Wilson.
De
désintoxication. Bon, je vais dire oui, je n'en ai aucune idée, comment voulez-vous que je le sache, cette question est débile.
Tout simplement en vous y connaissant en histoire.
Ou en piscine.
Vous avez perdu.
C'est faux, voilà. Je faisais appel non pas à vos qualités d'historienne, mais à votre sens de la déduction. Joe Biden a été élu président des États-Unis. S'il y a une piscine dans laquelle il a été maître nageur, la piscine s'appelle... La piscine Joe Biden, qui se trouve en Caroline du Nord, et non Roosevelt, forcément. Imaginez bien, la piscine, tout de suite, a été très fière de s'appeler Joe Biden, vu qu'il avait enseigné là-bas. Exactement.
Elle a été débaptisée, elle ne s'appelait pas comme ça quand il était maître nageur.
Ah bah oui, non, évidemment.
C'était ça votre question.
Effectivement.
Elle s'appelait Abraham Lincoln.
George Washington.
Il a été maître nageur en 1962 et la piscine a été baptisée à son nom en juin 2017.
Ouais, bon.
Question
d'accord.
numéro 3 pour vous, Stéphane. Parlons impressionnisme. Oh, Claude oui. Monet, mort en 1923 à Giverny, très beau jardin, sa peinture, ses nymphéas, sa grande barbe, son jardin japonais. Parmi ses œuvres, Étretat, soleil couchant, qui a été peint en 1883. Grâce à des chercheurs, on sait exactement ce qu'avait mangé l'artiste en peignant le tableau. Pardon, c'était... j'ai envie de vous dire pardon.
Ça serait génial. Ah oui, oui, oui. J'aime beaucoup cette idée, voyez-vous. Sans doute il a déglutit.
Il mangeait un Big Mac. Oui.
Non, mais ça, ça suppose qu'on aurait fait une analyse oui, des scories ou d'éléments de peinture sur la toile qui auraient permis de définir. De trouver
Mais oui, mais c'est bien connu cette étude, elle est très très connue.
Très connue. Ouais.
Ouais, qu'est-ce qu'on mange à Étretat ? Il a mangé une sole meunière avec les doigts. Mais,
voilà, des moules, il était allé manger des moules frites voilà. et on les a
c'est
retrouvées
ça. Il y a
sur
des
le tableau.
Coquilles de moules mélangées à la peinture.
Voilà, c'est vrai.
C'est votre réponse.
C'est vrai, c'est vrai.
Vous avez encore perdu.
Ah. Oui, on a peut-être perdu, mais on a bien ri. Et vous savez, ça, c'est historiquement vôtre.
Il a peint des moules. C'est faux, Stéphane, ben c'est oui, faux. Évidemment. Étonnamment, en revanche, pourquoi cette question ridicule ? Eh bien, parce qu'il y a eu une étude qui a été menée sur ce tableau, et on sait qu'il a été peint le 5 février 1883 à 16h53, dernier coup de pinceau. Comment ? Eh bien, un groupe de scientifiques mené par un professeur d'astronomie, grâce aux lettres du peintre, à la météo de l'époque, à la position du soleil dans le tableau, à la marée représentée et à un logiciel qui redessine les ciels du 19e siècle, on a pu faire cette datation extrêmement précise du tableau. À quoi ça sert ? À rien.
On est content.
Mais voilà, c'est l'avancée de la science. Question numéro 4 pour vous, Clémentine Portier-Kaltenbach. Clémentine, amis auditeurs, auditrices, si vous vous baladez sur le terre-plein central du boulevard de Clichy, près du boulevard Rochechouart, vous pouvez arpenter le boulevard Coccinelle, du nom de la première femme trans connue en France. Quand il a fallu changer son état civil, elle avait un avocat, Roland Copé, le père de Jean-François. Vrai ou faux ?
Jean-François Copé, quand il a quitté la vie politique, est devenu avocat. Il y avait probablement une tradition.
Jean-François Copé n'a pas quitté la vie politique. Enfin, on l'embrasse, mais il est toujours un petit peu en politique.
Oui, enfin, il a un peu remisé ses ambitions politiques au vestiaire, malgré tout. Même s'il il doit rester. Est-ce qu'il est encore maire de Meaux ? Je l'ignore. Enfin, toujours est-il qu'il y a eu probablement chez lui une tradition de porter la robe. Et par là même de défendre la première femme transsexuelle ou qui donnait son nom, qu'on a débaptisé le boulevard. Répétez-moi la question. Est-ce que c'était bien le père de Jean-François Copé, son avocat, c'est ça ?
Oui, Roland Copé, le père de Jean-François,
oui,
est-il l'avocat de Coccinelle ?
Oui. Je dirais oui.
Vous dites oui.
Vous avez perdu.
Ce qui nous permet
son
d'avoir...
Son père est un médecin.
Alors son père est plus que médecin, Stéphane.
Oui,
il est proctologue.
Oui.
C'est un grand proctologue,
voilà.
Effectivement,
vous savez
qui
ça,
visiblement
excusez-moi.
Est dans vos contacts. Donc on apprend des choses intéressantes.
Non, le professeur Copé est connu quand
bien
même.
Sûr, bien sûr.
Et non, mais pas de moi. Excusez-moi, j'ignorais qu'il était proctologue.
L'avocat de Coccinelle n'était pas n'importe qui. C'était un Robert Badinter.
Ah oui.
Coccinelle nous a quittés en 2006. Elle fut connue notamment pour sa ressemblance avec Marilyn. En 1963, elle avait triomphé à l'Olympia dans un spectacle écrit par Bruno Cocatrix. Et en 1996, elle s'était mariée en troisième noce avec Ziz Dupanier, artiste de chez Michou, en direct sur TF1 dans l'émission Tout est possible, présentée par Jean-Marc Morandini.
Entre
et j'ai
Michou
que vous n'aviez pas regardé cette émission.
Proctologue et Coccinelle.
Tout ça est une espèce de tout y
c'est flamboyant. Bon, moi j'ai 0-0. Hein.
Alors
moi,
écoutez j'ai un bien, point. Vous n'avez aucun point, Stéphane.
Ah non,
non, c'est 0-0.
Non,
tout le monde a eu tout faux.
Ah ben, il y a l'égalité, donc égalité,
il y a la dernière question, vous l'attendiez, la voici. La voici une question qui nous entraîne dans votre pays préféré, le Japon.
Ah,
on
oui.
a parlé ici. On a parlé
là,
ici.
Là, vous avez choisi les sujets qu'on connaît le moins pour la fin de l'année, pour qu'on soit bien nus.
On a parlé ici du shudo, une homosexualité qui se pratiquait chez les samouraïs durant l'époque médiévale entre maître et élève. On a parlé du nushu, un dialecte japonais réservé aux femmes. Je vous propose un nouveau mot du fascinant empire du soleil levant. Qu'est-ce que le Yubari King ? Alors là, rien de mieux que de musique chinoise pour partir au Japon. Bien joué. Effectivement. Alors, dans trois propositions, qu'est-ce que le Yubari King ? Un tout petit poisson qui se gobe vivant mais sans aucun risque pour la santé ? Une variété de melon japonais ou une nuit de noces où la mariée est attachée, suspendue dans les airs dans un rituel ancestral.
3.
3. Ah oui, c'est bien ça.
C'est très très bien.
2.
Oui, avant même que je formule. Bravo.
Qu'est-ce que c'était?
C'est
de
une
déjà
variété de melon japonais. Mais non, voilà. Stéphane, petit pervers. Une spécialité pour la nuit de noces où on attache. Bah, je vous rappelle quand même qu'il y a la convention de Genève, la torture.
Non, mais écoutez,
est
le bondage, c'est quand même un truc typiquement japonais,
oui,
c'est ça.
Oui, bien sûr. Mais vous n'avez pas vu les mangas que vous nous avez
bah
fait
oui,
gagner.
Là, on a gagné le super manga, Sado, Maso.
Mais vous ne vous rendez pas compte,
tout le monde est attaché.
En général, dans cette question, c'est toujours la pire solution qui prime.
C'est vrai, mais là.
Voilà.
Une fois n'est pas coutume, c'était un vrai
piège.
Oui,
c'est un melon très, très sucré. La pastèque et le cavaillon.
Alors, c'est un melon, quand vous allez apprendre son prix, vous allez un peu déchanter.
Ah, il vaut hors de prix, qui coûte des milliers de francs.
Non,
des
100 dollars pièce, qui est déjà beaucoup pour un melon quand même. Hein,
mais
par
j'ai vu récemment passer une info sur un melon vendu aux enchères, des sommes absolument astronomiques.
Oui. C'est cette espèce, c'est certains en particulier. Mais globalement, il vaut 100 dollars pièce. Sa qualité ne fait pas débat. Parfaitement sphérique. La peau est bien lisse. Quand on le présente, on conserve une partie de la tige de la queue parce que c'est plus joli. J'arrête la description car je sens monter en moi comme une excitation. Mm-hmm. Il est cultivé sous serre sur l'île d'Hokkaido, une des quatre principales dans l'archipel du Japon. C'est une sublime victoire.
Pas du tout
par hasard.
Après les proctologues chez les copés.
Hein, on a parlé
de melon pornographique.
De proctologue, visiblement.
Là, je pars plus riche en arrivant.
Oui, et vous avez bien mérité votre manga porno japonais. Je rappelle que c'était la récompense aujourd'hui.
16h, 18h sur Europe 1. Stéphane Bern et Mathieu Noël. Historiquement vôtre.
Vous écoutez Historiquement Vôtre, ce qui est le signe d'un bon goût dont je tiens à vous féliciter. Chaque après-midi, vous le savez, on réunit trois personnages de l'histoire qui avaient un point commun. Aujourd'hui, celui d'avoir redonné vie à un tueur en série. Pour mener l'enquête, qui de mieux que l'inspecteur Bern, dont la sagacité n'est plus à démontrer, il l'a prouvé à ce micro à de nombreuses reprises.
Il y a quelques personnes sur Terre qui n'ont pas d'empreinte digitale.
Et ceux qui n'ont pas de main.
Et oui, une puissance de déduction qui nous sera certainement utile dans cette deuxième heure, Stéphane.
Oui, bien sûr, Mathieu, puisqu'après Robert Bloch, je vous raconte l'histoire de celui qui a incarné avec brio l'étrangleur de Boston.
Oh mon Dieu.
Le comédien Tony Curtis. Plus proche de nous, Mathieu, vous nous brosserez ensuite le portrait à 99% vrai d'un acteur vivant, lui, qui incarne un serial killer vivant, lui aussi.
Oui, les deux sont vivants. Tahar Rahim, qui joue Charles Sobhraj dans une série Netflix, et Charles Sobhraj lui-même, le tueur en série qui a terrorisé l'Asie du Sud-Est dans les années 70 et qui nous écoute peut-être depuis sa prison au Népal, si toutefois Europe 1 dispose d'une antenne relais à Katmandou. Mais sachant que déjà ça capte mal sous Cavaillon, je crains qu'on capte mal Europe 1 au Népal.
Oui. Il y a également nos chroniques avec nous.
Ne les oublions pas.
Et nos chroniqueurs. David Castel-Lopez qui nous raconte les origines d'une invention. Et là, en l'occurrence, c'est un tapis roulant, c'est ça?
Exactement, c'est le tapis roulant ultra rapide de la station Montparnasse à Paris.
Feu
le tapis roulant, mais qui a marqué une génération de voyageurs, dont je suis, et dont vous êtes peut-être aussi. Et je vais vous raconter l'histoire de cet échec cuisant.
Ensuite, il y a Olivier Pouls qui aimerait vous faire avaler une quiche bizarre.
Mais qu'est-ce qu'il a fumé, lui? Je ne sais pas, jamais je mangerai une quiche aux orties.
Ben, ça paraît incongru aujourd'hui, mais je vous raconterai que l'ortie, durant de longs siècles, a été très largement consommée. C'est un peu tombé dans l'oubli et c'est dommage parce qu'il n'y a qu'à se servir dans la nature, c'est gratuit et surtout c'est plein de bonnes vertus, de
oui,
vitamines,
mais, voilà,
de tout ce que... mais c'est bon
c'est
au goût, je le répète.
Médicinales.
C'est, mais non, c'est bon.
C'est pour
délicieux.
Les tisanes.
Mais non, c'est délicieux l'ortie. Mangez des orties.
Alors, Stéphane, le mot de la fin, c'est vous qui l'aurez, comme d'habitude, chaque jour, l'histoire d'une expression. Hein,
oui, vous me le disiez hors antenne, Mathieu, je vous cite. Ma bagnole me coûte la peau des fesses à l'entretien. C'est vrai, on a tendance à l'oublier quand on achète une Porsche 911. Quoi qu'il en soit, c'est l'expression du jour, ça coûte la peau des fesses.
Très bien, nous verrons ça tout à l'heure. Je rassure hein, les gens qui ont une voiture comme la mienne, chez Fiat, le service n'est pas très très cher. Et tout de suite, partons à la rencontre d'un acteur sympathique qui a incarné parfois des rôles de type moins sympathique, comme, vous le disiez Stéphane, l'étrangleur de Boston. Stéphane Bern nous raconte Tony Curtis.
Europe 1, 16h, 18h, historiquement vôtre. Stéphane Bern et Mathieu Noël. Le récit.
Lorsqu'on pense à Tony Curtis, on le revoit bien sûr dans son rôle de travesti dans Some Like It Hot, certains l'aiment chaud, aux côtés de la sublime Marilyn Monroe, mais aussi dans le duo détonnant qu'il a effectivement formé pendant une seule saison à la télé avec Roger Moore dans la série Amicalement Vôtre. Sa gouaille et son œil malin dans la peau de Danny Wilde contrastaient parfaitement avec le flegme britannique de Roger Moore en Lord Brett Sinclair. L'histoire d'Hollywood a d'ailleurs longtemps résumé Tony Curtis à ce côté voyou, beau gosse, petit malin, brin chambreur. Il était d'ailleurs un peu dans la vie, peut-être en raison de son enfance à New York, où il fallait toujours se débrouiller pour tenir bon dans les rues du Bronx, parce que la vie n'était pas facile quand on venait d'une famille juive d'immigrés hongrois. Petit, Bernard Schwartz, le vrai nom de Tony Curtis, a vécu sa part d'antisémitisme ordinaire. Il fallait de l'humour pour le supporter. Il en fallait aussi pour résister aux épreuves de cette enfance pas bien gaie. Entre une mère schizophrène qui le battait régulièrement et ce drame horrible lorsque son petit frère adoré meurt à l'âge de 9 ans, tué par un camion. Tony Curtis en avait 13, évidemment. Ça marque une existence. En 1942, à 17 ans, le gamin du Bronx entre dans l'armée, bien décidé à prendre sa part dans le combat contre le nazisme. Il passe la guerre dans le Pacifique comme sous-marinier et c'est grâce à la bourse accordée aux vétérans qu'il peut s'inscrire à un cours d'art dramatique à son retour avant de monter pour la première fois sur les planches. La suite est météorique. Vite repéré, Tony Curtis débarque à Hollywood à 24 ans. Son côté athlétique, bronzé et charmeur fait merveille et il enchaîne les rôles de plus en plus importants. Il épouse Janet Leigh, l'une des stars montantes de Los Angeles. Oui, celle qui jouait dans le film Psychose, adapté du livre de Robert Bloch dont on parlait tout à l'heure. Avec elle, il a rapidement son premier enfant, la future actrice Jamie Lee Curtis. En 1958, il crève l'écran dans Les Vikings, en incarnant Eric, un esclave mutilé dont la douceur contraste avec la brutalité du personnage, incarné par la superstar Kirk Douglas. L'année suivante, Billy Wilder fait appel à lui pour Certains Lame Show, la comédie avec Marilyn Monroe qui raconte l'histoire de deux musiciens de jazz déguisés en femmes pour échapper à la mafia. Le film est un carton, mais Tony Curtis sent bien qu'on le cantonne à un certain type de personnage sans lui offrir le grand rôle dramatique dont il rêve. Tout cela change en 1968 lorsque le réalisateur Richard Fleischer recherche un acteur capable d'incarner à l'écran le rôle d'un des serial killers les plus célèbres des années 60, Albert DeSalvo, dit L'étrangleur de Boston. DeSalvo est accusé d'avoir violé et assassiné au moins 13 habitantes de Boston entre juin 1962 et janvier 1964. 13 meurtres en à peine 18 mois. C'est une crise meurtrière qui avait provoqué une véritable psychose dans toute la ville. Si son cas angoisse et fascine l'Amérique, c'est bien sûr par la violence des meurtres en question, mais aussi à cause du profil étrange de DeSalvo. L'homme, désormais dans la trentaine, a connu une enfance atroce avec un père alcoolique qu'il a littéralement vendu pour 9 dollars à un fermier qui en a fait son esclave pendant des années. Après la guerre, DeSalvo avait vécu une vie apparemment normale, d'abord en Allemagne, où il a servi comme militaire, puis à Boston, où il avait créé sa petite entreprise de plomberie. Un prétexte idéal pour rentrer chez ses victimes, qu'il violait avec toutes sortes d'objets avant de les étrangler, le plus souvent avec leurs propres bas, pour ne pas laisser d'empreintes. Une fois arrêté, DeSalvo avait passé un deal avec le procureur qui n'était pas certain d'avoir assez de preuves pour le faire condamner. En avouant 350 viols, DeSalvo échappe à une peine pour meurtre. Mais il n'échappera pas à ses coups détenus. En 1973, on le retrouvera mort dans sa cellule, poignardé 6 fois en plein cœur par on ne sait qui. Le réalisateur Richard Fleischer, qu'il a dirigé sur Les Vikings, est convaincu que Tony Curtis a tout le potentiel pour incarner ce tueur. Mais les producteurs ne sont, eux, pas de son avis, convaincus que Curtis est bien trop gentil pour faire un étrangleur crédible, lui préférant Warren Beatty ou Anthony Perkins, qui a déjà joué le rôle d'un tueur en série dans Psychose. Encore un point commun. Mais Fleischer est sûr de son choix, alors il triche. Il prend un cliché de Tony Curtis habillé en étrangleur. À peine maquillé, avec juste une bosse sur le nez pour ressembler au vrai Albert DeSalvo, Curtis transforme tellement son visage que le producteur Daryl Zanuck ne le reconnaît pas. L'histoire veut qu'il ait réagi en disant « Fantastique, il est parfait pour le rôle !» Mais est-ce qu'il sait jouer ? Pour savoir jouer, Tony Curtis sait jouer. Le film est dévoré par son visage à la fois impassible et habité par quelque chose de fou et de dangereux. Son jeu fait beaucoup pour le succès du film. Le talent de Fleischer fait le reste. L'étrangleur de Boston, qui sort en salle en octobre 1968, est le premier à utiliser la technique du split screen qui coupe l'écran en plusieurs parties pour montrer, là par exemple, en parallèle des scènes où l'on voit plusieurs femmes changer leur serrure ou acheter des revolvers, des couteaux ou des chiens de garde. Le procédé est devenu courant, mais à l'époque, c'est un vrai pari alors que beaucoup pensaient que ça perdrait le spectateur. Mais pour citer Richard Fleischer, il était évident que De Salvo était schizophrène. Alors, quoi de plus approprié que des images fragmentées pour le montrer à l'écran ? Plus tard, Tony Curtis a toujours dit qu'il n'avait jamais été aussi bon que dans ce film, au point de se faire lui-même peur par moments, comme dans cette scène où on l'aperçoit seul dans une cellule, étrangler une femme qui n'existe que dans son imagination, avec une terrifiante conviction, ou lorsqu'on le voit pleurer en marchant dans les rues de Boston, le regard dans le vide. Curtis a réussi l'exploit incroyable de ne rien masquer du mal, tout en lui apportant cette petite touche qui rappelle qu'il y a un être humain derrière chaque monstre.
Europe 1, historiquement vôtre.
Et pour continuer à parler de Tony Curtis, nous avons le plaisir d'accueillir le critique cinéma Frédéric Mercier. Bonjour Frédéric.
Bonjour.
Bonjour Frédéric Mercier, vous êtes critique de cinéma pour Transfuge, Positif ou Le Cercle sur Canal+. Vous enseignez aussi le cinéma à Sup de Création à Paris, en particulier le cinéma américain d'avant 1970, dont Tony Curtis est l'un, évidemment, des emblèmes. Quand on évoque Tony Curtis, on a souvent en tête l'image du playboy habitué aux comédies légères. À quoi vous l'associez-vous spontanément ? Comment vous le présentez, en quelque sorte, à vos étudiants ?
Je ne vais pas taire un peu le cliché, c'est-à-dire que je présente quand même à mes étudiants le fait que Tony Curtis a été immédiatement un sex-symbole. Immédiatement un sex-symbole, c'est-à-dire qu'il a été déjà vendu par la Universal comme l'un des plus beaux hommes du monde, avant même qu'il ait commencé à tourner des films. C'était déjà, on va dire, une sorte de vitrine publicitaire, alors qu'il avait 25 ans. Et à tel point, vous savez que Elvis Presley s'est inspiré de la coupe de Tony Curtis pour se fabriquer sa propre coupe, puisque Presley avait les cheveux blonds à sa naissance, oui. Et il s'est grimé les cheveux, enfin, il s'est maquillé les cheveux en noir, et il s'est fait une coupe à la Tony Curtis. Et il paraît d'ailleurs qu'il est allé trouver une comédienne avec qui Curtis avait tourné, et la première chose que Presley lui avait demandé, c'est « Il est comment, Tony Curtis ?» Donc c'est pour dire à quel point Curtis était vraiment
il
au début des années 50.
Même pour Elvis.
Voilà, c'est ça, il était sexy, il était beau, il était superbe. Alors effectivement, ce que je dis toujours, c'est qu'il est ça, mais en fait, en même temps, il est à la jonction de deux époques pour les acteurs. D'un côté, lui, il est dans la tradition du Hollywood classique, c'est-à-dire ses modèles, c'est Errol Flynn, c'est Cary Grant qui l'imitait superbement. Et d'un autre côté, il arrive exactement au même moment que Marlon Brando, Montgomery Clift, James Dean, Paul Newman bientôt. C'est-à-dire des acteurs qui, eux, ont été initiés à une autre forme de jeu, hein, la méthode Stanislavski, Lee Strasberg, où, on va dire, on est habité par le personnage, on devient le personnage d'un film. Et lui, il est entre les deux. Il est entre le jeu classique et le jeu moderne.
Stéphane l'a dit dans son récit, et ça m'a étonné, je ne le savais pas. Comment expliquer qu'une série comme Amicalement Vôtre, il y a eu une seule saison, ça lui est collé à la peau comme ça? Déjà, je ne pensais pas qu'il y avait une saison. Pour moi, Amicalement Vôtre, il y en avait 10 des saisons. Enfin, c'est tellement culte, et lui est associé à ça. Ça lui a vraiment collé à la peau. Pourquoi? Il était parfait dans ce rôle-là.
Je crois que le rôle correspondait d'une certaine façon à ce qu'il était et à ce qu'il représentait pour les gens. C'est-à-dire le séducteur. Enfin, je veux dire, le personnage d'Amicalement Vôtre est un séducteur. Il faut revoir le premier épisode. Je veux dire, il est entouré de 6 femmes et ils se font un concours avec Roger Moore à celui qui en aura le plus. Hein. C'est vraiment
c'est
l'idée.
Époque, hein. Tu démarres un pitch de série comme ça aujourd'hui.
Oui, on pourrait pas faire de pilote aujourd'hui
ça.
Et en même temps, il y a toujours une sorte de gouaille. Il y a quelque chose de très américain. Il faut savoir que Tony Curtis, vous le disiez, il est né dans le Bronx et il n'a jamais perdu son accent du Bronx. Et quand vous écoutez en version originale les films avec Tony Curtis, on est souvent très surpris par le par ce petit accent un peu bad boy, effectivement.
Enfin, c'est vrai qu'en même temps, il était sexy, etc.
Il avait ce physique de jeune premier, c'est vrai.
Mais est-ce que ça vous enferme ? C'est-à-dire que on a l'impression que ça n'a pas changé dans le cinéma. Vous voyez, par exemple, Anthony Perkins jouait dans Psychose.
Alors
pensé à lui. Donc en fait, c'est le droit de suite, en quelque sorte. On vous voit dans un rôle, perpétuellement, on vous fait jouer ce rôle.
Oui, c'est ça. C'est-à-dire que Il était le beau gosse et il joue au début des chevaliers. Je vous dis un peu Errol Flynn, quoi. Il avait la peau un peu hâlée. Donc on lui a donné beaucoup des rôles un petit peu orientaux. Vous savez, dans le fils d'Ali Baba, des trucs comme ça. Et évidemment, lui a toujours voulu sortir de ce carcan. Et on va dire un peu comme souvent, par exemple, des acteurs comiques qui voudraient faire des rôles dramatiques. Tony Curtis a voulu commencer à jouer des rôles qui soient un peu plus complexes. Et par quoi ça passait ? Ça passait parce qu'à cette époque-là, on se mettait un petit peu à créer des anti-héros, alors que jusqu'à maintenant, le cinéma hollywoodien était plutôt habité par des héros. Et évidemment, il a voulu lui-même commencer à composer des anti-héros. Des anti-héros, ça veut dire pour faire valoir son jeu d'acteur.
Mais en fait, j'ai raconté qu'il venait du Bronx, d'une famille où il y avait beaucoup de difficultés. D'abord, beaucoup de drames aussi, la mort de son petit frère, sa mère schizophrène. Mmh. Au fond, il a un côté, il voulait s'émanciper, il voulait sortir de sa condition.
Oui, il voulait sortir de là d'où il venait, et je vous disais, et en même temps, il était toujours à la fois, je veux dire, sa chance, c'était son physique, mais ça a été d'une certaine façon le carcan qui l'a enfermé. Et d'un autre côté, il ne perdait pas cet accent du Bronx qui rappelait toujours les origines d'où il venait. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il va jouer des rôles qui sont en miroir un petit peu de ce parcours dont vous parlez. Il y a un film qui est très peu connu, qui s'appelle L'extravagant Mr. Curry, qui a été réalisé par Blake Edwards, le réalisateur de La Panthère Rose, de Diamant sur Canapé. Et c'est le rôle d'un petit parvenu qui ne vient, je dirais, de nulle part, et qui essaye, un peu comme Frédéric Moreau dans L'éducation sentimentale, vous savez, de grimper les échelons très très vite de la société par les femmes, et il est extrêmement antipathique. Et ça, c'est une des particularités de Curtis à partir des années 50, c'est que autant il est sexy, il est beau, il est gouailleur, autant il n'est pas forcément très sympathique. Et il va jouer un petit peu là-dessus.
Le rôle dans lequel il n'est pas sympathique, c'est L'étrangleur de Boston, hein, dont on a beaucoup parlé. Ça, c'est un vrai rôle dramatique, c'est un tournant dans sa carrière.
C'est un tournant et c'est la fin, en fait.
Ah bon,
c'est-à-dire que la période de gloire de Tony Curtis, c'est le début des années 50, le mariage avec Janet Leigh. Là, ils sont vraiment, c'est les deux, le couple magnifique, quoi. Ils sont sublimes, ils sont beaux, ils sont jeunes, etc. Ces années 50, où ils tournent quand même une série de films assez importants, malgré les comédies moyennes, les années 60, c'est une vraie chute. Parce que c'est le problème du beau gosse, hein. À 25 ans, ça va, il commence déjà à vieillir. Bah, je dirais, comme souvent pour des actrices. Hein, je veux dire, il vieillit pas forcément avec les studios. Et quand il y a L'étrangleur de Boston qui arrive, qui est un rôle qui est un peu disputé par pas mal de comédiens, pour lui, c'est la chance de sa carrière. C'est la chance de sa carrière. Il va faire son grand rôle. Aujourd'hui, on dirait un rôle à Oscar.
Ah oui.
Vous voyez, bah, il l'aura pas son Oscar. Il l'aura pas. Et il restera cantonné malgré tout dans cette idée. Et juste pour revenir à ça, Amicalement Vôtre qui vient après ne dure qu'une saison. Donc ça s'arrête. Et surtout, Amicalement Vôtre. Réfléchissez, le personnage qui joue, Amicalement Vôtre, c'est un parvenu. C'est aussi ça. C'est aussi quelque chose qui raconte Tony Curtis. Malheureusement, sa carrière sera... après, ça sera la dégringolade, la descente aux enfers, la drogue. Ça va très mal se passer.
Ça finit mal pour Tony Curtis. Oui. Ça, vous n'en avez pas parlé, Stéphane. C'est votre
côté. Non, parce que c'est mon côté. Non. Je vois toujours les choses en rose.
Oui. Vous arrêtez pile au bon moment.
Pour rester positif, Mathieu.
Merci beaucoup, Frédéric Mercier, d'avoir évoqué avec nous cette légende, cette figure de légende qui restera Tony Curtis.
On racontera la débandade une autre fois. Vous reviendrez et on racontera la fin de Tony Curtis, qui visiblement est gratinée.
Ici Europe 1.
16h-18h sur Europe 1. Stéphane Bern et Mathieu Noël.
Historiquement vôtre.
Aujourd'hui, dans Historiquement Vôtre, on évoque ces personnages qui ont redonné vie à des tueurs en série. Après Robert Bloch et Tony Curtis, vous nous brossez, Mathieu, le portrait croisé du comédien Tahar Rahim et de celui qu'il incarne dans une série à succès sur Netflix, le redoutable tueur Charles Sobhraj.
Portrait croisé, non Stéphane, car faire un portrait croisé au tarif d'un portrait normal, ça revient à faire deux portraits, dont un gratuit. J'aime beaucoup Europe 1, mais je ne fais pas dans le bénévolat. J'ai donc décidé d'axer plutôt sur le tueur, Charles Sobhraj, que sur Tahar Rahim, tueur encore en vie aujourd'hui, et pourtant, avant cette série Netflix, vous n'en aviez probablement jamais entendu parler.
Non.
C'est ainsi, de même qu'il existe en gastronomie des légumes oubliés, il existe en criminologie des tueurs oubliés. Laissez-moi vous présenter le panais mortel, le topinambour fatal, Charles Sobhraj. Première chose qu'on peut dire de lui, c'est qu'il est beau, le salaud. Et ça dénote un peu, ça, dans l'univers des serial killers français. C'est vrai, le sex appeal n'était pas l'atout numéro 1 d'Émile Louis ou de Francis Holmes. Ils en avaient d'autres, bien sûr, ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit, Stéphane. L'important, c'est la beauté intérieure, on est d'accord, hein, même pour un serial killer. Charles Sobhraj, lui, est canon. Même Tahar Rahim, qui est déjà très beau naturellement, a dû bosser pour lui ressembler. Plusieurs mois de régime draconien et un entraînement physique intensif. La série s'intitule Le Serpent et fait partie des plus gros succès Netflix de l'année. Alors, si vous ne l'avez pas encore vu, surtout éteignez tout de suite la radio, ma chronique est un immense spoiler. Le Serpent, c'est l'histoire d'un génie du mal qui réussit à échapper à la police et à ses gardiens de prison, à de nombreuses reprises. Un criminel insaisissable, d'où le titre de la série. On aurait pu aussi dire le filou, mais... Previously on the filou, ça sonnait pas trop, donc on l'a appelé le serpent. Le serpent fascine, escroc, séducteur, meurtrier, manipulateur, empoisonneur aussi. C'est un bachelor qui tue, la synthèse de Clooney et Fourniret. À son actif, plus de 18 meurtres durant les années 70, essentiellement des touristes issus de la communauté hippie qui parcourait l'Asie. Charles les abordait, gagnait leur confiance, leur disait un peu comme Stéphane au stagiaire.
Oui, venez, n'ayez pas peur.
Et puis quick, Par son charisme et son mode opératoire novateur, Charles Sobhraj fascine Taha Rahim depuis l'adolescence. J'avais lu un livre qui lui est consacré, La trace du serpent de Thomas Thomson, raconte-t-il. À l'époque, je rêvais déjà d'être acteur. Incarner un personnage aussi complexe et qui plus est français me faisait fantasmer. Fantasme devenu réalité, donc grâce à Netflix. Un tournage éprouvant pour Taha Rahim qui, afin de bien entrer dans le personnage, a décidé de s'enfermer dans une bulle imaginaire, même quand les caméras ne tournaient pas. Il répétait seul, il déjeunait seul, il ne parlait à personne. Ah, c'est ça, si ça se trouve depuis le début de la saison, si Stéphane n'est pas venu une seule fois avec nous à la cantine, c'est qu'il nous prend de haut comme ça, c'est qu'il se met dans une bulle pour son prochain rôle dans Meurtre en Indre-et-Loire. D'ailleurs, on le sait peu, mais Taha Rahim a dû batailler pour avoir le rôle de Sobhraj. Stéphane aussi avait passé un bout d'essai.
Oh les mains!
Il fout les jetons, mais pas dans le sens qu'on voudrait, avait déclaré le directeur de casting. C'est donc Taha Rahim qui a eu le rôle et qui s'est donc enfermé dans sa bulle sur le tournage. Pendant 15 jours, il n'a adressé la parole à personne et ça a marché. Cette peur qu'il inspire à l'écran, elle est aussi liée au fait que sur le plateau, plus personne n'osait lui parler, ni même le regarder dans les yeux. On peut parler de manipulation et ça tombe bien. La manipulation, c'était le fond de commerce de ce Charles Sobhraj. Hatchand Baonani Gurumukh Charles Sobhraj, dit Charles Sobhraj, dit le serpent, né le 6 avril 44 à Saigon. Négligé par papa, abandonné par maman qui part vivre en France avec un militaire français, le petit Charles vagabonde dans les rues de Saigon. Il ne se le formule pas encore clairement, il ne se dit pas « je m'ennuie, tiens, si je droguais des gens et que je les noyais pour récupérer leur cash et leur passeport », mais ça va venir. Sa mère revient le chercher en 53, tente de lui prodiguer une éducation stricte à Paris pour rattraper ses négligences passées. Trop tard, Mamounette. À 19 ans, il est condamné pour vol de voiture, puis emprisonné pour cambriolage. Il passe 3 ans derrière les barreaux, jusque-là pourtant, tout va presque bien. À sa sortie de prison, il rencontre une certaine Chantal Compagnon, baptisée Juliette dans la série. Il l'épouse et ils partent pour l'Inde en 1970. C'est là que la passion de Charles pour la manipulation de touristes commence à se dessiner. Il y a bien sûr différents degrés hein, dans la manipulation de touristes. Il y a le chauffeur de taxi parisien qui te fait passer un couple de Chinois par les Invalides pour aller de Roissy à Montmartre. Il y a le vendeur de sombrero à Cancun qui demande 40 dollars pour un chapeau qui en vaut 2. Et puis il y a un cran au-dessus, le Charles Sobhraj. Officiellement, négociant en pierres précieuses basé à Bangkok, organisateur de soirées prisées des hippies de passage, il aborde des touristes, leur offre des conseils de local à qui on ne la fait pas, leur offre un verre, puis 2, puis 14. Une fois que le touriste est suffisamment bourré...
Allez, réservez-moi du rosé.
Charles glisse un produit dans son verre. Le touriste se retrouve avec un mal de bide infernal, cloué au lit chez Charles, qui a toujours une chambre de libre pour ses amis. Le temps que le pigeon agonise sans comprendre ce qui se passe, car en plus Charles fait semblant de le soigner, l'infâme manipulateur récupère l'argent et les papiers de la malheureuse victime, dont il se débarrasse ensuite avec son complice et homme de main, Ajay Chaudhuri, et Monique, sa nouvelle copine, visiblement pas trop regardante sur le fait que son mec liquide des hippies. Il a ses défauts, mais je l'aime comme il est, témoignera-t-elle à son procès. La dite Monique s'appelle en fait Marie-Andrée Leclerc, une Québécoise tombée folle amoureuse de Sobhraj, qui la manipule elle aussi allègrement. Il faut dire qu'il a un don assez inouï pour endosser de nouvelles identités et être crédible. Comme vous, Stéphane, quand en soirée vous dites
« Bonjour, c'est Alain Delon ».
La combine fonctionne sans accroc, la sienne, pas la vôtre. Hein. Jusqu'au jour où Sobhraj sort de sa zone de confort pour tenter un vol dans une bijouterie. Là, ça marche moyen et il fait un peu n'importe quoi, il se fait choper, il finit en tôle, mais il finit par s'évader. Comment ? Eh bien, en simulant une crise d'appendicite, bien sûr. On le transporte à l'hôpital pour l'opérer, on l'opère et au réveil, hop, il s'évade, échappant de peu aux policiers qui le courent. Oh les mains !
Peau de lapin, la saucisse et du boudin, la maîtresse en maillot de bain.
Je précise qu'on n'a pas les droits Netflix, donc j'ai dû mettre d'autres illustrations. C'est un peu mieux joué dans la série Netflix. Il comprend alors que la clé d'une carrière de serial killer, c'est le mouvement. Grâce au passeport de toutes ses victimes, qu'il a bien sûr falsifié pour se créer différentes identités, il est hyper mobile. En plus, à l'époque, pas besoin de passe sanitaire. Turquie, Pakistan, Kaboul, Grèce, Sobhraj est un globe-trotteur, un authentique citoyen du monde. Parmi les victimes identifiées, une américaine qu'on trouvera morte et brûlée à Pattaya, Jenny Bolivar, noyée et abandonnée en maillot sur une plage, des Français, des Hollandais, des Turcs, tous noyés en maillot de bain, ce qui vaudra à Charles Sobhraj un surnom rigolo, celui de Bikini Killer. Le couple infernal, les Bonnie and Clyde du tanga, seront finalement arrêtés à New Delhi alors que Charles est en train de droguer un groupe d'une soixantaine d'étudiants français. Un peu voyant peut-être, là pour le coup, les autorités sentent, c'est le cas de le dire, qu'il se passe un truc chelou. Ils arrivent à interpeller Charles alors qu'il tente de s'échapper d'une scène apocalyptique que vous pouvez voir dans la série, c'est dans les derniers épisodes, où 60 étudiants se tortillent au sol dans le lobby d'un hôtel en proie à une terrible crise diarrhéique collective. On lui passe les menottes.
Entre quelques flatulences.
Voilà, hélas, même en prison, Sobhraj reste dangereux. Il obtient des gardiens toutes sortes de passe-droits, Tant que je peux parler aux gens, je peux les manipuler », fanfaronne-t-il. Il réussira notamment à échapper à l'extradition vers la Thaïlande, où il risque la peine de mort. Finalement, en 1997, le serpent est libre et là...
Douce France.
Retour en France, tranquillou, et nous, enfin l'opinion publique de l'époque, on le trouve charmant, ce serial killer beau gosse dont on oublie complètement le côté serial killer pour ne voir que le côté aventurier. Le voilà qui négocie habilement sa notoriété, qui monnaie ses interviews, bref, qui séduit. Oh, c'est vrai au fond, bon, ok, il a buté quelques touristes, mais pour la plupart c'était des Hollandais, et drogués en plus. À l'heure où nous parlons, Stéphane, Sobhraj pourrait être tranquillement en train de pêcher à la mouche dans une rivière du Périgord, peinard, avec ses 18 meurtres sur la conscience. Mais non. Car en 2003, grisé par l'ivresse de l'impunité, il commet une énorme erreur, presque incompréhensible, sauf à imaginer qu'il voulait se faire prendre. Il se fait un petit voyage au Népal. Ce qui est très con, puisque au Népal, il y a un mandat d'arrêt pour meurtre contre lui. Nouvelle arrestation, nouveau jugement, cette fois Sobhraj ne sortira plus jamais de prison, mais il réussira à pécho son avocate, une népalaise qui évoque volontiers sa grande gentillesse, son aura, sa force et sa patience. Je ne pense pas qu'un homme puisse changer. Celui qui est mon mari aujourd'hui ne peut pas avoir commis des crimes hier. Bah non, penses-tu ? Ces cons de hippies, c'est eux qui savaient mal doser le LSD probablement. Ah, les Hollandais, David.
C'est dégueu.
Mais bien sûr, finalement, Sobhraj a presque rendu un service à l'humanité en nous en débarrassant. Bref, cet homme est extrêmement dangereux. Prions pour que cette fois, il ne s'échappe pas. Stéphane, si jamais vous vous retrouviez face à lui, vous savez quoi faire.
Oh les mains.
Non, surtout pas ça, Stéphane.
Ah non, mais quel mauvais camarade vous êtes. Merci Mathieu, c'était à 99% vrai.
Oui, et malheureusement, c'est presque à 100% vrai. Pour ceux qui voudraient voir la série, j'espère qu'ils n'ont pas écouté parce qu'il y a quand même toute l'histoire de ce
Sobhraj. C'est passionnant.
J'avais un petit peu envie, moi, mais du coup, je l'ai vu un petit peu.
Vous l'avez un peu vu, malheureusement, et surtout, serez attentif à la scène dans le lobby. Okay. C'est pas en odorama, mais presque.
Oh.
16h-18h sur Europe 1, Stéphane Bern et Mathieu Noël.
Historiquement vôtre.
Historiquement vôtre, l'émission qui remonte aux origines des objets de notre quotidien. Avec vous, David Castello-Lopez. Voilà aujourd'hui un objet qui a disparu, mais qui a fait partie du quotidien des Parisiens et pas que. Beaucoup de touristes qui venaient dans la capitale pendant des années. Le tapis roulant ultra rapide de la station Montparnasse.
Oui, tout à fait. Il y a eu une discussion assez longue dans la rédaction l'autre jour pour savoir si parler d'un tapis roulant parisien, c'était vraiment trop parisien comme sujet. On se demandait si les auditeurs d'Historiquement vôtre, ils n'allaient pas se faire des remarques du genre... Ouais, sur Europe 1, on parle toujours de Paris, mais jamais un mot sur les Deux-Sèvres, alors que c'est un territoire hyper dynamique, notamment au niveau des collectivités territoriales. Et merde. Et moi, j'ai répondu non, non, parce que derrière ce sujet parisien se cache une histoire d'échec. Or, l'échec, déjà, c'est quelque chose qui fait plaisir à tout le monde. Hein, l'échec, ça fait plaisir à tout le monde, pourvu que ce soit l'échec des autres. Et en plus, si c'est quelqu'un de fort et de prestigieux, hein, c'est un peu ce qu'incarne Paris, qui échoue, alors là, tout le monde adore. Et donc, un échec parisien, de ce point de vue-là, c'est cool et c'est susceptible de compenser ce qu'on appellerait aujourd'hui l'invisibilisation des Deux-Sèvres. Voici donc l'histoire du tapis roulant ultra rapide de la station Montparnasse à Paris. Alors d'abord, contexte, à Paris, il y a un peu plus de 300 stations de métro, 25 stations de RER, c'est super dense, mais toutes ces stations ne sont pas au même niveau d'importance. Il y a des stations ordinaires, comme par exemple Boussicaut, vous voyez, où c'est juste...
une pointe de mépris pour voilà. La station
non,
Boussicaut.
Non, la plupart des stations de métro sont comme ça, il y a une seule ligne de métro qui passe par là. Et puis aussi, il y a des méga stations, comme Châtelet, Saint-Lazare, et aussi Montparnasse. Ces stations, ce sont, comme dans tous les gros métros du monde, des stations où plein de lignes se croisent. Et à Montparnasse, en plus, il y a une gare de train grande ligne qui dessert tout l'ouest de la France. Donc, c'est encore plus. Et souvent, pour faire sa correspondance, il faut marcher 5 minutes, 10 minutes, 15 minutes dans des couloirs souterrains relous. Alors, pour rendre ces trajets à pied moins pénibles, on a installé dans quelques stations de Paris des tapis roulants qui permettent aux paresseux de cesser de marcher pendant un moment et juste d'être debout comme ça, et aux gens dynamiques de réduire leur temps de trajet en passant sur la gauche. Ces tapis roulants, en temps normal, ils vont à peu près à 3 km/h. C'est-à-dire en gros la vitesse d'une vieille dame. Mais au début des années 2000, il y a des innovateurs français qui ont inventé un tapis roulant qui allait plus de 3 fois plus vite, à 11 km/h. 11 km/h, c'est à peu près la vitesse d'un jeune jogger bien fit que vous voyez passer dans la rue. Et donc imaginez ce jeune jogger à côté d'une vieille dame, et vous aurez une idée de la différence de vitesse entre un tapis normal et le tapis ultra rapide. Et en 2002, ces innovateurs, ils ont réussi à convaincre la RATP d'installer leur tapis à la station Montparnasse à Paris, en leur disant notamment que ça pouvait faire gagner 1 minute 30 à chaque voyageur qui l'empruntait par rapport à un tapis roulant normal. Bon, c'est pas mal, 1 minute 30 quand même, le temps c'est de l'argent, etc. Et ce tapis, il a marqué une génération entière de Parisiens en particulier,
Marseillais, peut-être aussi d'autres voyageurs, mais de Parisiens en particulier, dont je fais partie. Moi, j'avais l'impression, quand je le prenais, vraiment une impression très forte d'être dans le futur. Et puis, ça permettait aussi, quand on l'empruntait, de mépriser un petit peu ceux qui étaient sur le tapis, qui allaient tout doucement. Vous voyez, ce qui est un peu un sport parisien, de mépriser. Et là, c'était vraiment un truc qui nous aidait de ce point de vue-là. Et ce dont tous les Parisiens de cette époque se souviennent en particulier, c'est du système qui permettait de faire accélérer les gens. Parce que bien sûr, vous pouvez pas projeter quelqu'un à 11 km/h d'un coup.
Il y avait un pré-tapis.
Il faut que l'accélération soit progressive. Et pour ça, il y avait une sorte effectivement de pré-tapis qui était fait de centaines de petites roues disposées en ligne. Et chaque ligne de petites roues tournait légèrement plus vite que la précédente pour finalement atteindre les 11 km/h. Et à ce moment-là seulement commençait le vrai tapis. Même chose à la fin du tapis. Si vous allez à 11 km/h et que brusquement vous allez à 0 km/h, et ben vous vauterez. Et donc, il y avait les mêmes petites roues qui ralentissait progressivement. Et en plus de ça, je ne sais pas si vous vous souvenez, pour que les gens ne soient pas surpris, il y avait une voix de femme hyper avenante, mais très répétitive, qui disait « Gardez les pieds à plat, gardez les pieds à plat, gardez les pieds à plat,
gardez les pieds à plat. »
Parce que si on ne gardait pas les pieds à plat, on risquait de se vautrer encore plus. Tout ça, ça a l'air assez sympa sur le papier.
C'était sur les petites roulettes, on devait garder les pieds à plat puisqu'elle nous faisait accélérer.
Mais exactement.
Et que je n'ai pas connu ce tapis.
Moi non plus,
mais j'ai jamais emprunté.
Peut-être que vous aviez déjà, votre Porsche et vous...
Mais j'étais pas dans ce quartier. Mais si, pourtant. C'était quelle année? Rappelez-nous l'année.
C'est entre 2002-2009, oui.
Ça n'a aucun sens. Bah, alors j'ai dû le prendre, mais je ne me souviens pas de cette voix.
Je veux dire, ça avait l'air, enfin, quand moi je le prenais, ça avait l'air en plus très très sympa sur le papier, tout ça. Mais ce n'était pas suffisant parce que malgré les annonces de la dame qui disait garder les pieds à plat, les gens, ils ont commencé à se casser la gueule sur le tapis et à se faire mal. Et alors la RATP a mis des hôtesses devant pour expliquer le tapis aux gens. Et puis ensuite, ils ont mis des écrans avec des explications. Mais rien de tout ça n'a marché. Il y avait toujours des gens qui se cassaient la gueule. Alors ils ont réduit la vitesse du tapis de 11 km/h à 9 km/h. Puis, humiliation suprême, ils ont baissé la vitesse à 3 km/h, c'est-à-dire la même vitesse qu'un tapis roulant normal. Et finalement, le 21 mai 2009, le couperet est tombé. On a décidé de démanteler le tapis et de le remplacer par un tapis normal. Donc un échec total, définitif. Et qui pose la question, est-ce qu'il y a eu d'autres tapis, peut-être quelque part, d'autres tentatives de tapis ultra rapides qui ont lieu? Eh bien oui, j'en ai trouvé au moins une qui est beaucoup plus récente, à l'aéroport de Toronto au Canada. Et là, ça a marché. Pourquoi? Parce que le système était différent. Il n'y avait pas de pré-tapis et de tapis. C'est que chaque lame du tapis roulant de Toronto a son propre moteur. Et donc, on peut le faire accélérer progressivement sur toute sa longueur. Donc, il n'y a pas de « Ah, je vais plus ou moins vite, plus vite ». Et donc, ça a permis la sécurité. Ça a permis aux gens de ne pas se casser la gueule. Et donc, maintenant, ça marche. Encore une idée française brillante qui était mieux réalisée par d'autres.
Ça me fait penser au Concorde. C'est-à-dire qu'on va moins vite aujourd'hui à New York qu'à une certaine époque.
Tout à fait.
Et là, on va moins vite sur le tapis roulant.
Ouais, c'est terrible.
Quelle longueur il faisait ?
Il faisait 183 mètres.
Ah, c'est long, bravo, quand même. Ouais.
C'est bien. Merci beaucoup, David. On retrouve les origines en podcast sur toutes les applis audio et naturellement sur le site europe1.fr.
La séquence qui suit normalement nous met en appétit. Olivier Pouls, qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Vous nous parlez d'une quiche aux orties.
Ça peut paraître un peu incongru aujourd'hui de vous proposer de manger des orties. Oui. Alors les orties, c'est l'ortie que vous connaissez, hein, qui a dans les bois, dans les forêts, qui abonde partout. C'est cette petite plante particulièrement désagréable quand on la touche parce qu'elle a la faculté d'être urticante. Et donc l'idée de manger ça, c'est effectivement pas la première chose qui nous saute.
C'est contre-intuitif.
C'est totalement contre-intuitif et il faut rendre hommage au premier gars sur Terre, une fois encore, qui s'est dit...
C'est le même qui a bouffé un escargot pour la première fois.
Voilà, c'est Michel.
J'ai ramassé ces orties, ça me pique les mains, c'est horrible, mais je vais quand même aller jusqu'au bout. Et puis, tiens, je vais les manger, tiens, on va voir. Qui sait, ça va peut-être passer. Donc, je pense qu'il a passé un mauvais quart d'heure, mais il n'avait pas compris qu'en fait, pour enlever le côté urticant de l'ortie, il faut tout simplement la chauffer. Et qu'une fois que l'ortie a été chaude, a été chauffée, elle n'est plus piquante du tout. Donc ça, c'est le premier point. Mais... les orties, en fait, c'est pas d'hier qu'on les consomme. Déjà, l'Antiquité, on les consommait en infusion. Elles avaient des vertus médicinales qui étaient très reconnues, comme par exemple d'être dépuratives, diurétiques ou même reminéralisantes. Il y a énormément de vitamine C dans les orties et c'est d'ailleurs l'une des plantes qui contient le plus de protéines. C'est très très bon pour votre santé que de manger de l'ortie, figurez-vous. Alors, au Moyen-Âge, l'ortie est abondante dans les bois. Elle n'est pas chère, évidemment, elle est gratuite par définition. Et elle rentre dans la composition d'énormément de préparations. Les paysans, mais aussi les petits seigneurs du Moyen-Âge se régalent d'orties, alors qui sont préparées en soupe, qui sont préparées en purée, en omelette, en soufflé. Il y a une consommation très importante de l'ortie qui va décliner par la suite de l'arrivée de légumes nouveaux, plus exotiques, plus intéressants et qui vont faire plonger la consommation de l'ortie. Aujourd'hui, on n'en consomme pratiquement plus et pourtant c'est une erreur. Je vous défie d'aller faire le marché à Paris et de revenir avec une botte d'ortie. C'est pratiquement impossible. Et pourtant, je vous le redis et je vous en supplie, croyez-moi, c'est délicieux à manger. Alors, qu'est-ce que vous faites ? Vous allez dans les bois avec une petite paire de ciseaux, un gant, parce que...
N'oubliez pas le gant.
Hein. C'est urticant. Et vous prélevez les 10 ou 15 cm du haut de l'ortie où vous avez les feuilles qui sont les plus tendres et qui sont les meilleures. Vous découpez ça, vous faites une petite récolte, vous en prenez 120-150 grammes. Si vous avez un beau champ d'ortie, croyez-moi, ça va aller assez vite. Vous rentrez à la maison, toujours avec votre gant, vous détachez les feuilles. Ces feuilles, vous les lavez et ensuite, vous allez les poêler dans un petit peu de matière grasse, un petit peu de beurre ou un petit peu d'huile d'olive. Il y en a pour 2-3 minutes. Et dès qu'elles sont poêlées, elles ont totalement perdu leur caractère urticant. Je le répète, il n'y a plus aucun danger de les manger. Vous allez les ciseler avec un couteau tout à fait comme on le ferait avec des épinards, par exemple. Et vous rajoutez ça dans un appareil à quiche, c'est-à-dire 3 œufs, un petit peu de crème liquide, quelques dés de feta par exemple, une cuillère de moutarde, sel, poivre, vous mettez vos orties là-dedans, une pâte à quiche, une pâte feuilletée par exemple, dans un four à 180 degrés et 30-35 minutes de cuisson à peu près. Et vous avez une quiche avec un goût extraordinaire, c'est un goût un peu végétal, mais assez fin aussi. Je ne peux pas vous le décrire comme ça, ça ne ressemble pas à des épinards.
Ça ne ressemble à rien, il n'y a aucune autre plante.
Il n'y a pas d'autre plante qui ressemble à l'ortie. Mais vous êtes vraiment dans la forêt, c'est-à-dire qu'il y a ce côté quand même un peu végétal, oui. Mais un végétal très agréable. Et je vous garantis que c'est très bon. Faites-moi confiance, je vous en cuisinerai, je vous le promets, vous allez adorer ça.
Mais si par exemple tu me fais une quiche aux orties, on sent ce goût d'ortie, on va le repérer ou c'est très fin?
Bien sûr, non, c'est très fin, c'est pas important. En plus, il y a tout un appareil à quiche, vous avez la feta qui, je trouve, se marie assez bien avec l'ortie, mais vous pouvez tout simplement faire une omelette d'ortie. Hein. Vous prenez les orties telles que je vous les décris tout à l'heure, vous cassez 3 ou 4 dedans, un peu de sel, un peu de poivre, et tac, et franchement, vous allez avoir quelque chose d'assez bluffant.
Eh bien, écoutez,
et qui
merci.
Plus est, excellent pour votre santé.
Ah oui, ça, on aura noté, avec des protéines. Séance de muscu et derrière, hop, des orties. Merci, Olivier, on retrouve toutes vos recettes, y compris celles comprenant des orties, sur le site europe1.fr. Stéphane, pas d'orties dans votre chronique. Aujourd'hui, l'histoire d'une expression, ça coûte la peau des fesses.
Oui, quand on s'interroge, Mathieu, sur le rapport qualité-prix d'un bien, quand conscient de la valeur d'un achat, on constate le sacrifice financier qu'il faut faire, il nous vient parfois cette expression grivoise, « Oh ben, ça coûte la peau des fesses ». D'où vient cette formule ?
J'avoue que je ne m'étais jamais posé la question. J'imagine que c'est comme j'y tiens comme à la prunelle de mes yeux. On tient à certaines parties de son corps.
C'est effectivement bien raisonné. Merci. C'est la même chose dans « ça coûte un bras » ou « ça coûte les yeux de la tête ». Alphonse Allais, qui était journaliste et humoriste, c'est vrai qu'il y en a beaucoup aujourd'hui qui me font rire, a officiellement inventé l'expression « ça coûte la peau ». Et on est en 1897. Cavanna, dans son roman « Les Ruskov », ose la peau des fesses. Mais l'expression était déjà dans le langage courant. Mais il existe une autre hypothèse quant à l'origine de la formule. 1000 ans avant notre ère, dans l'actuelle Turquie, une cité grecque brille de 1000 feux. Elle sera la capitale de la province romaine d'Asie Mineure, Éphèse. Le commerce tourne à plein régime sur ce port actif de la mer Égée. On y vend des épices, du bois précieux, des fourrures, les peaux d'ours sont notamment à la mode. Mais comme ce qui est rare est cher, les prix grimpent, d'où l'expression qui, sous forme de calembour, donnera « ça coûte la peau des fesses ». Mais moi-même, je ne suis ni persuadé de l'authenticité de cette hypothèse, ni même de sa drôlerie. Vous êtes fort aimable d'avoir ricané. Aujourd'hui, pour dire « la peau des fesses », en allemand, on dit que ça coûte le blanc des yeux. En Espagne, c'est « costar un ojo y la mitad del otro ». Un œil et la moitié de l'autre. Il ne doit pas rester grand-chose. Au Vietnam, on dit « un prix qui coupe la gorge ». C'est difficile de faire pire. Allez, quittons-nous sur une citation d'Alphonse Allais, celui qui a inventé l'expression du jour. Il a dit « le rire est à l'homme ce que la bière est à la pression ». Pas mieux.
Un nouveau numéro d'Historiquement Vôtre s'achève. Il était consacré aujourd'hui, les amis, à ces personnages qui ont fait revivre des tueurs en série. Alors Stéphane, qui avez-vous envie de remercier le plus finalement ?
Écoutez, Tony Curtis, parce que bon, moi j'aime bien Tony Curtis, d'abord parce qu'il nous a donné l'idée
de l'émission, du titre de l'émission
Historiquement Vôtre, en hommage à Amicalement
Vôtre.
Mais
non, mais nous, on devrait faire une deuxième saison, contrairement à eux.
Ah oui, c'est vrai.
Et oui, t'en fais qu'une seule saison. Une seule saison Amicalement Vôtre.
J'ai appris ça en me préparant cette émission.
Et oui. Un avant-goût qui nous attend demain, Stéphane ?
Oui, demain, on réunit des personnages qui ont fait les magasins, oh, surtout les grands magasins. Aristide et Marguerite Boussicot qui ont fondé le Bon Marché. Ernest Cognac et Marie-Louise Jay, à qui l'on doit la célèbre Samaritaine.
Et si je vous dis Stéphane, Enes et Moritz.
Des amis suisses, à vous ?
Non, le nom d'un célèbre grand magasin imaginé par le suédois Erling Persson. Je vous raconte l'histoire d'H&M, une histoire à 99% vraie, bien sûr.
Et 100% à crédit.
Ou polyester. Oui. À demain,
à
Stéphane.
À demain, Mathieu.
Et demain, je prendrai votre carte bleue.
Non, je préfère que vous preniez la vôtre.
Non, la vôtre, c'est mieux pour faire du shopping. À demain, les amis.
Retrouvez Historiquement Vôtre tous les jours de 16h à 18h sur Europe 1 et en podcast sur Europe 1.fr.